BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs. Que vous ayez déjà un capital ou que vous cherchiez à en construire un, ça se passe tous les jours de 10h à midi, en direct, à la radio, à la télé, sur le web, et puis à n'importe quelle heure, en podcast et en replay, que vous soyez en France ou ailleurs. Et on salue tous nos auditeurs, en dehors de notre beau pays. Au programme de leur avenir, notre beau pays, justement, au programme, nous allons parler d'Ajaccio et de Cannes, deux villes que nous mettons en opposition dans le cadre de notre match des villes avec l'équipe de Net Investissement. Est-ce qu'il vaut mieux investir en Corse ou dans la belle Azurienne ? On parlera également de private equity, puisque c'est jeudi. Le jeudi, on aime bien parler private equity dans Tout pour investir. On zoomera sur le secteur des logiciels. Pourquoi est-ce qu'il intéresse autant le non-coté, ce secteur des logiciels ? Réponse dans une petite demi-heure. Et puis, on parlera de vos impôts. On essaye de faire ça tous les jours pour vous aider à survivre à cette sombre période déclarative qui est ouverte depuis le 11 avril. Est-ce que c'est un moment d'angoisse pour vous ? Ou bien, au contraire, une formalité ? Si vous êtes parent, en tout cas, il y a des cases qu'il ne faut pas que vous oubliez de cocher, les conseils de Marion Chapelle-Massot pour ne rien oublier et puis rendre vos enfants utiles sur les déclarations fiscales, si je puis dire. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez. Ce sujet vous interpelle d'ailleurs. Vous nous avez déjà posé quelques questions. On parlera aussi un petit peu d'IFI et de DPE. On répondra à un de nos auditeurs qui nous demande quelle est la décote liée aux travaux avant-revente nécessaires pour avoir un DPE boosté. Est-ce qu'il y a des manières de rendre ça déductible sans risques fiscaux ? Nous vous attendons à l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je suis connectée, vous m'écrivez. On part à Euronext, rejoindre Antoine. Cher Antoine, il y a toujours de la pression sur notre CAC 40 à l'approche de la mi-journée. Eh bien, on est en baisse de 0,48% avec les résultats. Racontez-nous.
Oui, pression qui a tendance à augmenter un petit peu, c'est vrai. Donc on descend à 8053 points. On commence à regarder les supports du côté des 8000, comme d'habitude. À noter une baisse encore plus marquée de tout le compartiment technologique, puisque l'Euronext Tech Leaders recule d'1,15%. À noter une baisse de 0,6% du côté du DAX à Francfort et moins 0,43% du côté de l'Eurostock 50. Alors, un petit peu difficile de faire le digest de tout ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que les réactions boursières, elles commencent d'un côté, elles finissent de l'autre. Ça part en hausse, ensuite ça corrige à la baisse. Bref, toutes les cartes sont un petit peu rabattues. Figurez-vous quand même qu'il y a un titre qui caracole en tête des progressions, c'est Sanofi, qui gagne 4,2% à 91,40€. Le titre était bien orienté depuis le début de la séance, mais derrière on retrouve STMicro qui gagne 1,7% à 39,91€ après avoir signé à l'ouverture la plus forte baisse du CAC. On était en baisse de 6% après un avertissement qui est quand même resté dans l'esprit des investisseurs, d'autant que le titre avait signé la plus forte hausse du CAC 40 hier. Bon, mais malgré ça, le titre remonte en flèche en ce moment. Un autre titre qui est vraiment très entouré depuis le début de la séance, c'est BNP Paribas, mais vous voyez, plus forte hausse du CAC 40 aussi à l'ouverture. Et le titre là est quasiment à l'équilibre, malgré des résultats qui sont quand même très très bons. Plus 0,1% pour BNP Paribas, on est à 67,80€. Quelques déceptions à signaler. Dassault Systèmes qui recule de 4,4%, 37,22€. Pernod Ricard aussi, chiffre d'activité, moins 2,9%. À 140,85€. L'increvable Hermès subit quand même une baisse, sans doute des prises de profit. Le titre recule de 2,3% à 2299. Et puis on a l'ensemble du secteur du luxe qui suit un petit peu le mouvement. Il était en hausse en début de séance. Là, il repart à la baisse. LVMH, par exemple, moins 1,56. On est en 787,70€. À noter qu'il n'y a pas de débat autour d'Atos. Atos signe la plus forte baisse du SBF 120 depuis le début de la séance, moins 7,7% à 1,84€. Et quelques performances marquantes, notamment celle d'Eramet. Alors c'est vrai, résultat inquiétant, mais aussi une opération géante peut-être dans le domaine de la mine. Le titre gagne 2,1% à 77,75€. Et puis Veralia signe vraiment une très très belle performance en gagnant 5,9% à 35,96€. Le CAC, moins 0,47, 8053. L'euro, 1,0728.
C'est l'heure de votre histoire, Antoine. Et si on parlait de l'économie réelle un peu ?
Tout pour investir ? L'histoire d'Antoine.
Et il faut dire qu'on s'est beaucoup occupé ces derniers jours de Tesla, de Meta aux États-Unis, mais au milieu de l'avance des résultats tech et pas tech, eh bien certaines entreprises se dégagent et marquent eh bien une vraie amélioration du sentiment de marché. De qui peut-on parler ?
Oui, parce que derrière les gros titres qui concernent la high-tech, l'IA, etc., bah, il y a aussi l'économie réelle. Et souvent, l'économie réelle, elle sert à financer les investissements futurs. C'est le cas notamment pour l'industrie automobile. Ce sont les ventes de voitures thermiques qui financent la transition vers l'électrique. Alors, du côté des États-Unis, c'est vrai qu'en plus, on était un petit peu comme ce matin, un petit peu paumé ces derniers jours. Vous vous rendez compte, il y a quand même Tesla qui publie des résultats archi décevants, qui prévoit des améliorations, qui prévoit du changement, etc., le titre termine en forte hausse. Meta, hier, c'est exactement l'inverse. Le consensus battu à plat de couture. Bon, l'annonce aussi d'investissements nécessaires pour continuer l'avancée vers l'intelligence artificielle. Et alors, tout de suite, le titre s'effondre, moins 13%. Bon, c'est un petit peu le monde à l'envers. Mais ça explique aussi que les investisseurs ont besoin d'assurance, ont besoin de support et de valeur aussi pour se dire que, voilà, on a de véritables baromètres de consommation qui vont nous donner un aspect un petit peu plus fiable de l'économie réelle derrière les gros titres de l'économie quotidienne que sont les Magnificent Seven, etc. Et alors, il y a quelques publications, notamment celle de Whirlpool. Oui, l'électroménager.
Whirlpool,
consensus
ouais.
Pulvérisé sur le premier trimestre. Oui, pulvérisé. Ford, incroyable, consensus battu, alors que Ford se retrouve en plein milieu de la problématique automobile du moment, à savoir, est-ce qu'on n'est pas allé beaucoup trop vite sur l'électrique ? Ford a été l'un des premiers à annoncer « Bon, on va réduire un petit peu nos capacités sur l'électrique, on va accentuer nos capacités sur l'hybride, parce que les dynamiques de développement, elles sont là pour le moment. » Eh bien, c'est payant. Le titre Ford était en hausse en après-bourse et les résultats sont vraiment à l'avenant. Puis Chipotle, ça paraît anecdotique comme ça, mais la consommation américaine, la consommation dans les restaurants Tex-Mex, elle tient le coup. Le consensus est vraiment, vraiment battu en termes de publication de résultats. Et puis, il y a un chiffre aussi ce matin. On a parlé d'énormément de publications de résultats. Il y a un truc qui est complètement passé à l'as. Toyota. Pour la première fois, dépasse en une année les 10 millions de véhicules vendus. C'est
10 millions.
Vu dans l'histoire de Toyota, on n'en a pas parlé, pourtant, ça existe, 10 millions. Et exactement, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi l'avait déjà fait, Volkswagen aussi, Toyota jamais. Eh bien, Toyota a franchi ce cap symbolique. Et du coup, voilà, encore une fois, il est question d'économie réelle, il ne faut pas l'oublier, c'est celle-là qui apporte même du support au marché, au-delà des dynamiques de croissance, c'est vrai, très spectaculaires et très première ligne, des big tech. Et il ne faut pas l'oublier, cette économie réelle, parce qu'elle signe des performances étonnantes en bourse.
On aurait pu aussi parler voiture avec vous. Vous parlez de Toyota qui devrait, selon Reuters, s'associer à Tencent en Chine, ce qui nous amène en Chine. Un mot de Xiaomi avec, vous savez, sa voiture, son SUV SU7 là, que vous regardez.
Elle se vend très bien, visiblement.
Qui se vend très bien. 75 000 commandes pour cette voiture Xiaomi électrique. Mmh. Et puis surtout, 10 000 livraisons. Ça, c'est l'économie réelle aussi, les livraisons de voitures.
Voilà,
merci
exactement.
Antoine pour ce point, cette histoire financière. L'économie réelle, il ne faut pas l'oublier, elle est bien là. À retrouver en podcast et en replay cette séquence sur notre site et notre application. Et puis Antoine à retrouver en direct dès demain dans Tout Point Investir. Il est l'heure de s'occuper d'immobilier. Il est l'heure d'emmener nos auditeurs là où il fait beau, là où la France est magnifique. Nous allons partir à Ajaccio et à Cannes. Bon, on vous emmène en tant qu'investisseur, pas en tant que touriste. Mais restez avec nous, à tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
On vous emmène, investisseurs, là où il fait beau, là où l'air est frais. Et là où, en tout cas, on peut parler immobilier. On va parler de Cannes, on va parler d'Ajaccio. Avec Marie. Bonjour Marie Cardoy.
Bonjour Lorraine.
Et puis notre monsieur bataille des villes, Stéphane Briand. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes en charge du pôle immobilier chez Net Investissement. Pourquoi organisons-nous un match entre la Côte d'Azur et la Corse, d'une part et d'autre. Racontez-nous ce choix.
Vous l'avez assez bien résumé, finalement, Lorraine. L'idée, c'était de vous emmener auprès de la Méditerranée, de récupérer un peu de soleil. C'est le début du printemps, les beaux jours arrivent. Donc, je trouvais que, finalement, la Corse était assez représentative et la Côte d'Azur...
Enfin, c'est comme la baisse des taux, on l'attend le
printemps. Ouais, tout doucement, on y arrive, tout doucement. Donc, je trouvais ça pertinent. Et on va le voir, c'est surtout ces deux régions qui ont beaucoup de similitudes, à commencer par la population de seniors qui est quand même assez omniprésente, que ça soit en Corse, tout comme en Côte d'Azur.
Ça change pas, ça ? Stéphane, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de... on a beaucoup parlé ces dernières années de l'Atlantique Riviera, compte tenu du réchauffement climatique et effectivement des températures qui l'été grimpent à des niveaux dingues. Est-ce que justement les personnes âgées, cette clientèle finalement, est pas en train de se déplacer du coup? Attendez, là, j'étais en train de promettre la Méditerranée, vous m'envoyez sur la côte atlantique, je vous emmène en Bretagne. Stéphane, on va changer le match.
C'est une bonne question, Marie. Il y a cette notion du climat, et c'est vrai que les températures dans le sud, en tout cas l'été, sont quand même assez douloureuses, encore plus pour les seniors. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont fait le choix ou non d'y rester? Si on reprend les données statistiques, en tout cas la population est encore importante.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est 30% de la population qui sont des retraités aujourd'hui, si on regarde la Corse. Mmh. C'est un tout petit peu moins à Cannes, donc on a quand même cette proportion qui est importante et qui, pour le moment, se maintient. Quid d'ici 5 ou 10 ans avec ce réchauffement climatique, on peut se poser la question.
Et donc du coup, donc on a quand même une population relativement âgée, que ce soit à Cannes ou à Ajaccio. Ok, ça c'est parti. Côté prix, c'est pas la même histoire quand même.
Côté prix, c'est pas la même histoire. Et puis alors, je reviens juste sur les similitudes. Ensuite, on parlera un petit peu des...
Moi, je préfère les différences.
Ouais, je
trouve que
bien,
c'est ça qui est riche.
Par les similitudes. Ça explique un peu mon choix et ça met en avant pourquoi d'ailleurs le choix de ces deux villes. En similitude, et c'est je pense peut-être la plus importante, c'est qu'on est quand même sur deux régions et surtout deux villes qui reposent essentiellement, et c'est même vital,
sur le tourisme.
Et c'est important, on le voit encore, c'est 3 millions de visiteurs chaque année. À Cannes, c'est également 3 millions de visiteurs chaque année. C'est 7 milliards de recettes qui sont issues du tourisme à Cannes. Et ça représente 30% de l'économie locale si on regarde aujourd'hui Ajaccio et la Corse. Donc on a quand même ces similitudes où on a une population de seniors importante. On a un marché économique qui repose essentiellement sur le tourisme.
A fortiori un peu plus à Cannes ou pas? Parce que je pense notamment au Festival de Cannes, mais à d'autres événements qui peuvent... Typiquement, le MIPIM dans notre secteur de l'immobilier.
Exactement.
On a quand même pas mal d'événements qui se passent à Cannes.
C'est pas pour rien que c'est aujourd'hui Cannes est la deuxième ville des festivals après Paris. Et en effet, elle tisse quand même son économie autour du tourisme, mais autour également, je dirais, des grands événements culturels.
Le tourisme pro, en fait.
Exactement, pro, et au travers, effectivement, de sa croisette et de son mythique festival. Donc, il y a des ressemblances à ce niveau-là.
On a un chiffre qui illustre ça. Il y a 6 hôtels 4 étoiles à Cannes. 6 hôtels 5 étoiles et 32 hôtels 4 étoiles, c'est ça?
En effet, les chiffres sont quand même assez fous. Je crois qu'il y a une trentaine d'étoiles, 3 étoiles. On est, je pense, sur la quintessence du luxe au travers de son mythique festival, de la croisette, de ses décors de plage, de ses casinos, de ses palaces.
Il faut quand même les faire tourner toute l'année, ces hôtels. Donc ça montre bien qu'il y a ce tourisme.
Après, Cannes va bénéficier aussi finalement du rayonnement économique de Nice, qui est aujourd'hui quand même une véritable métropole. Elle va bénéficier aussi de la proximité avec son aéroport. Cannes aujourd'hui quand même une ville quand même assez bien située géographiquement. On a mi-chemin entre Monaco et Saint-Tropez. On est proche de Marseille, on est proche des Alpes et on est proche de l'Italie. Donc c'est un peu.
C'est combien pour aller de Paris à Cannes aujourd'hui? Comment on s'organise en train?
Alors ça c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même le TGV aujourd'hui et en termes de distance, on doit être à peu près sur un peu plus de 3 heures.
Ouais.
Donc ça se fait assez bien, sachant qu'il y a d'autres métropoles qui sont desservies comme Toulouse ou encore Lyon. Vous avez le TER aussi qui est présent, qui vient plutôt desservir, je dirais, toutes les communes en périphérie. Donc c'est une ville qui est bien située, qui est bien desservie. Et on va le voir aussi, là on parlait de similitudes, avec un marché immobilier qui est, je dirais, assez singulier. Chose que l'on peut aussi retrouver, je dirais, à Ajaccio, puisque on va être sur des proportions de résidences secondaires qui sont assez importantes.
Vous avez une idée, là, de...
Alors, on a quelques chiffres. Aujourd'hui, notamment, en tout cas, en Corse, c'est le chiffre, en tout cas, est quand même assez important. C'est un tiers des logements qui sont aujourd'hui considérés comme logements vacants.
À Ajaccio, tiers des logements.
À Ajaccio, on peut même regrouper la Corse, que j'ai même regardé sur Bastia et sur d'autres régions en Corse. Et même d'ailleurs, les stats sont même plus importantes si on regarde une ville comme Porto Vecchio, qui est tout simplement magnifique. Là, on bascule à deux tiers. C'est-à-dire que deux tiers des logements sont considérés comme une résidence secondaire et donc vacants et principalement destinés à du Airbnb.
Mais alors justement, je vous interromps Stéphane, mais avec les réglementations, parce que je vais faire ma parisienne, à quel point la réglementation peut être stricte en fonction des communes. On sait que plus on va aller, là il y a eu un projet de loi qui a été voté qui va donner plus de pouvoir aux communes pour acter de leur réglementation propre à la commune. On en est où du côté de Cannes et du côté d'Ajaccio?
Il n'y a pas de changement majeur pour le moment. Vous en parlez, Marie, ces lois, elles arrivent. Elles vont donner plus de pouvoir, en effet, à la commune, à l'agglomération, pour pouvoir dicter un petit peu ce qui est faisable ou non, d'un point de vue de la location saisonnière. Pour le moment, Cannes n'est pas réellement encore impacté. Ce n'est pas le cas non plus en Corse, qui est même mis un peu de côté pour le moment.
Mais ça veut dire que je peux louer ma résidence secondaire sans problème?
Oui. en respectant en tout cas tous les critères aujourd'hui qui sont imposés via Airbnb, mais en tout cas c'est possible et c'est réalisable.
Non, parce que Paris, pour le coup, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Paris, on ne peut pas louer sa résidence secondaire sur Airbnb. Enfin, il y a des moyens d'y échapper, mais c'est trop compliqué. Donc bon, voilà. On va partir du principe qu'on ne peut pas.
Non, là c'est encore possible en tout cas, en Corse et aujourd'hui à Cannes.
Et donc là, on parle de quel type, quand on parle de cette proportion de résidences secondaires, de l'attrait pour Airbnb, notamment parce qu'on est sur des villes de touristes, est-ce que là, on parle d'un investissement locatif en vue justement de faire de la location saisonnière, ou est-ce que là on est en train de parler avec vous, Stéphane, d'une location traditionnelle?
Alors moi j'envisage toujours les deux. Forcément on s'adresse à je dirais des investisseurs qui vont être forcément tentés par le saisonnier, puisqu'on va, la recherche du rendement oblige. Néanmoins, et c'est surtout le cas à Ajaccio et à l'échelle de la Corse de façon générale, on a aujourd'hui une vraie pénurie de logements à l'année sur la location classique, donc en nu ou en meublé. Donc c'est là aussi où on le verra, Ajaccio s'en sort quand même assez bien en termes de notes, puisqu'on va venir quand même sur le résultat, même si on a tendance à quand même à beaucoup développer.
Avant
le
résultat, je veux le prix, moi. Non, parce que j'ai commencé par le prix, vous n'avez pas voulu me répondre, Stéphane. C'est quoi les prix à Cannes et à Ajaccio?
On va quand même parler des prix, Marie, je sais que c'est important, et en effet.
Je rappelle que cette chronique ne fait pas une demi-heure. Hein. Ouais. Il faut qu'on réponde quand même à nos auditeurs, on a promis une promesse d'investissement.
En termes de prix, ça va d'ailleurs répondre un petit peu aux notes. Je pense que c'est là-dessus où la Corse, et surtout Ajaccio, je dirais, se démêle, puisqu'on est globalement à 4 500 € du mètre carré pour un appartement aujourd'hui à Ajaccio. On va dépasser légèrement les 5 000 € du mètre carré pour une maison. Si on compare ensuite à Cannes, où là les prix sont quand même assez disparates, mais si on fait quand même une moyenne, on est globalement à 6 000 € du mètre carré pour un appartement. Je dis bien en moyenne. On va voir dans le détail ensuite. On va dépasser les 7 000 € pour une maison. Et si ensuite on regarde vraiment au cas par cas, notamment le boulevard de la Croisette, qui est peut-être l'avenue la plus célèbre à Cannes.
C'est les Champs-Élysées cannois, quoi.
Exactement. On va dépasser très facilement les 10 000 euros du mètre carré.
Enfin bon, c'est pareil, qui a envie de vivre sur les Champs-Élysées à Paris, à part d'être qatari ou d'être une banque, je veux dire.
Récemment, Nathalie Portman, je crois, qui investit dans un très bel hôtel particulier, mais bon, voilà.
Oui, mais là, comme on n'est pas Nathalie Portman.
Non, malheureusement, non, mais. Non, c'était pas.
On voit le hiatus quand même entre les prix d'une part à Ajaccio et à Cannes. Ce différentiel, il est aussi lié à la taille des deux villes. On compare deux villes qui n'ont pas la même taille.
C'est vrai.
Redonnez-nous
mais qui
un peu
ont quand même une population quasiment identique. On est 72 000 habitants à Cannes, on est à 75 000 habitants à Ajaccio.
Ajaccio qui a explosé ces dernières années.
C'est assez fou, c'est plus 67% de l'augmentation de la population au cours des 50 dernières années. C'est assez fou.
C'est l'évolution démographique. C'est des Corses qui se concentrent sur la ville d'Ajaccio. C'est des gens du territoire, du continent, pardon, qui sont venus en Corse.
Si on regarde les flux migratoires, finalement, c'est un joli mix. On a en effet beaucoup de Corses qui ont fait le choix de quitter Bastia, en tout cas de vraiment aller sur Ajaccio, qui devient, je dirais de façon naturelle, la première métropole en Corse. Et on a aussi en effet des métropolitains, beaucoup de retraités notamment, ou en tout cas d'actifs mais proches de la retraite, qui font le choix de venir s'y installer.
Bon, et au final, les notes, Ajaccio gagne de combien? Parce qu'on sait que, bon, a priori, il gagne.
Peu quand même, mais c'est Ajaccio qui gagne avec une note moyenne, on va dire, de 12,8 sur 20. Cannes est juste derrière avec 12,4 sur 20.
Bon, donc c'était un chouïa.
C'était quand même un match quand même assez serré. Je reviens juste sur Ajaccio, parce que c'est quand même un point qui est pour moi quand même essentiel. Je vous parlais de l'augmentation au cours des 50 dernières années. On est encore aujourd'hui sur un solde migratoire qui est positif. C'est plus 1,2% chaque année. C'est quand même énorme, si on compare à la moyenne nationale. Oui. Et en plus de ça, selon l'INSEE, à horizon 2030, Ajaccio devrait frôler les 80 000 habitants.
Un aspect qu'on n'a pas abordé d'Ajaccio, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement cette ville de Corse, c'est une ville où il y a beaucoup d'immeubles.
Tout à fait.
On est sur une ville d'appartements.
Exactement.
Est-ce que le ratio d'immeubles et d'appartements est aussi important à Cannes? Concrètement, il y a 90% d'appartements.
C'est ça, aujourd'hui à Ajaccio. Non, on va avoir quand même plus d'appartements aujourd'hui à Cannes, mais le ratio quand même s'inverse. On est de mémoire à 60% d'appartements, le reste sous forme de maisons. Donc en effet, Ajaccio, c'est un petit peu sa particularité.
On n'est pas sur le cliché qu'on se fait de la Corse avec la maison.
Non, ça ne sera pas Ajaccio. Mais on a quand même Ajaccio, c'est une véritable ville, c'est sans doute peut-être la seule, je ne veux pas contrarier Bastia, mais en tout cas on a une véritable ville. Il y a une restructuration assez profonde au niveau de l'aménagement urbain des équipements, puisque forcément Ajaccio anticipe et se restructure en vue de cette croissance démographique qui est quand même assez soutenue. Donc il y a quand même des projets qui devraient améliorer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques problématiques liées à la vie aujourd'hui à Ajaccio. Je ne parle pas forcément que de la délinquance, je parle aussi, je dirais même, de la vie au travers de ces bâtiments. C'est quand même assez dense. Ouais. Et donc la ville, en tout cas, l'agglomération, la communauté, tente en tout cas à restructurer le
Mais du coup, Corse, moi je rebondis sur ce que disait Lorraine, qui est hyper intéressant, c'est que du coup, là, on est sur une ville qui, même s'il y a toujours l'attrait touristique, on est bien d'accord, mais vous parliez de Porto Vecchio, c'est peut-être plus l'image qu'on se fait de la résidence tourisme. Et donc là, en termes d'investisseurs, oui. Là, on va s'adresser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel type de stratégie d'investissement je fais en fonction de la ville? C'est-à-dire, est-ce que typiquement, Ajaccio, je fais plutôt un investissement long terme sur une location nue ou meublée, mais longue durée? Et est-ce que Cannes, j'opte pas plus pour de la location saisonnière? Est-ce que ça devrait réorienter un tout petit peu
Vous avez
nos
même quasiment répondu à la question, Marie, avec la question, mais c'est comme bravo. Non, mais si on regarde vraiment, je dirais, le profil d'investisseurs et même du coup de locataires qu'on va avoir, que ce soit à Cannes ou à Ajaccio, compliqué pour un néophyte d'aller tout de suite sur du saisonnier, parce qu'il y a quand même des frais, je dirais, c'est assez chronophage et ça peut être assez.
Un turnover qui est compliqué.
Voilà, du coup, une gestion qui, du coup, soit on est sur place ou on ne l'est pas et on passe par une conciergerie. Donc c'est vrai que pour des néophytes, ça peut être compliqué. Je dirais que plutôt à Ajaccio, il faudrait peut-être plutôt tendance à s'orienter sur un investissement, je dirais, assez classique, en nu ou en meublé. Là, aujourd'hui, on a une forte demande locative puisqu'il y a une pénurie de logements disponibles à l'année. À l'inverse, en tout cas, si on s'intéresse à Cannes, et vu les budgets, on ne sera a priori pas non plus sur un investisseur néophyte, mais plutôt sur un second, un troisième investissement. Il y a aussi la notion aussi d'investissement plaisir, à Cannes aussi à Ajaccio, qu'on peut retrouver, peut-être un peu moins à Ajaccio, un peu plus à Cannes. Mais néanmoins, on va être plutôt orienté sur un investisseur avec une surface de financement plus importante, qui lui peut s'intéresser à du saisonnier, mais également la location nue. Sachant que je termine peut-être juste là-dessus, on parlait des prix au mètre carré. Si maintenant on regarde un petit peu les rendements qu'on va retrouver notamment à Cannes, on va être globalement sur un rendement locatif brut entre 4,4 et 4,6%.
Alors qu'à Ajaccio,
on est globalement entre 4 à 5%, c'est assez disparate selon la typologie du bien.
Mais donc c'est masso menos la même chose.
C'est exactement effectivement la même chose, même si on a un marché locatif qui est quand même plus tendu aujourd'hui à Ajaccio, je parle sur une location classique à l'année, comparé à Cannes.
On déborde, avec une dernière question quand même qu'on est obligé d'évoquer. On parle de la Corse. Vous nous avez dit un tiers des logements vacants en Corse. C'est encore pire à Porto Vecchio, où vous nous disiez c'est deux tiers.
Oui.
La ville d'Ajaccio qui a explosé en quelques années. Il y a forcément aussi cette logique de est-ce qu'on a envie d'accueillir des investisseurs, qu'ils soient de France, du continent, aussi volontiers pour faire de la location touristique, alors que on est sur un territoire qui est quand même loin, je veux dire, il faut quand même aller à Ajaccio, il faut prendre l'avion, à moins que vous soyez marseillais comme vous, et que vous ayez la chance de pouvoir y aller en bateau. Comment on appréhende ce marché, comment on s'y projette quand on n'est pas corse, pour le dire très simplement.
Et c'est justement ce qui effraie, je pense, la plupart des investisseurs, puisqu'en effet, il y a quand même cette notion de distance.
Et puis il y a l'image des Corses quand même,
voilà,
on va le dire.
J'allais venir tout de suite, mais tout doucement quand même, en disant, il y a quand même la distance qui peut en effrayer plus d'un. Et ensuite, en effet, on doit quand même le dire, il y a aussi un peu l'image que véhicule la Corse. Donc en effet, ça
rebute un certain nombre.
Un certain nombre.
Mais vous nous dites, c'est pas parce que vous êtes de métropole qu'il y a des problématiques d'investissement et que l'accueil sera moins chaleureux.
On quand même là-dessus, mais pour moi c'est valable pour n'importe quel investissement immobilier. Il faut bel et bien maîtriser l'aspect gestion locative qui est pour moi en tout cas essentiel et est très important en Corse parce que la distance l'oblige, le contrôle sera quand même moins bien fait. Donc là, il faut en effet bien sélectionner son gestionnaire. Mais c'est tout à fait possible et réalisable, sachant que pour rappel, que l'on soit à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, en Corse ou en Bretagne, en Normandie, dans tous les cas, généralement, l'investisseur n'est pas amené à venir régulièrement solliciter son bien. C'est le travail de l'agence au quotidien.
Voilà, on finit avec, pour ceux qui nous suivent en images à la télé ou en replay, avec le port d'Ajaccio derrière nous, le port Charles d'Ornano. Puisqu'on a dit qu'il y avait 90% d'appartements à Ajaccio, il y a le port, où c'est difficile de voir, d'imaginer qu'il y a autant d'appartements, autant d'immeubles à Ajaccio. Merci à tous les deux pour ce match, puisque c'est un match qu'on organise avec vous, Steven, régulièrement. Je vous rappelle les notes. Ajaccio, très correct, 12,8. Cannes, pas mal aussi, 12,4. En tant qu'investisseur, comment appréhender, comment regarder ces marchés immobiliers du sud de la France. Chère Marie, à demain pour une demi-heure.
Oui, et on aura Olivier Principal, le patron de la FNIM du Grand Paris, mais on restera pas qu'à Paris et en Ile-de-France, mais ça sera quand même assez symptomatique de toutes les problématiques du moment. Je vous parle DPE, prix, location, tout ça, on va en parler. Et on sera évidemment accompagné par quelqu'un de formidable qui est Virginie Grolot, journaliste à Challenge.
Il y a Patrick sur LinkedIn qui vous salue, Marie, et qui nous envoie un sujet pour vous à propos du microfoncier. Oui, cher Patrick, on va en reparler de ce microfoncier. On va travailler dessus avec Marie et toute l'équipe. Merci Stéphane Briand et l'équipe
plaisir,
de Net Investissement avec nous pour ce match des villes. À dans un mois pour un autre match. J'espère aussi intéressant. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après c'est jeudi. Private Equity, nous allons zoomer sur le secteur du logiciel. Pourquoi est-ce que le non-coté s'intéresse d'aussi près au logiciel? Réponse avec l'équipe d'Opale Capital. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en private equity. C'est jeudi. On aime bien parler de private equity le jeudi sur BFM Business. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet avec Paul Moreno-Blosseville. Bonjour Paul.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. On va parler private equity, mais surtout, on va vous poser une question. Pourquoi est-ce que le private equity s'intéresse autant au secteur du logiciel? Alors, on va faire le portrait de ce secteur du logiciel. Et puis, avec voilà, votre œil d'investisseur en PE, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut surveiller pour estimer si ça vaut le coup d'y aller sur telle ou telle entreprise. Alors d'abord, pourquoi le logiciel est un secteur intéressant?
Alors, la réponse la plus simple, c'est positionner sur un secteur qui est en très forte croissance. Quand vous prenez l'économie dans son ensemble, le PIB d'un pays, ça croît à entre 0 et 4%, et 4% vous êtes déjà très bien. Les logiciels, c'est un secteur qui, depuis par exemple les 6 dernières années, ont cru plutôt de 6%, et après il y a aussi de 16%.
Ah oui, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux, ouais. Et en fait, dans les logiciels, vous avez aussi une sous-catégorie qu'on appelle les SaaS, que je vais définir à l'instant, mais qui, elle, croît encore plus. C'est de 20 à 30% de croissance par an.
Les SaaS, le SaaS, on en parle régulièrement sur notre antenne, ce sont tous les logiciels sur abonnement, ceux qu'on paye mensuellement ou annuellement, que ce soit en B2B ou en B2C. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition un peu large de ce qu'on appelle le logiciel?
Le logiciel. Le logiciel, c'est une application qui vous permet de gérer un de vos besoins. Et ça, ça peut être très très large. Je vous donne peut-être 3-4 exemples.
Allez.
Qu'est-ce que je vais utiliser comme logiciel pour gérer une chaîne d'approvisionnement? Eh ben, je vais utiliser un logiciel qui va me détecter pour une charge donnée, pour un produit donné, quel est le meilleur nœud suivant. C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt charger ça sur un camion ou sur un train ou sur un bateau, de façon à faire mes économies de coûts et aussi d'empreinte carbone. Donc ce logiciel me permet de piloter ma chaîne d'approvisionnement de façon la plus économe, rapide et donc économe aussi en carbone possible. Un deuxième exemple, je suis un entrepôt logistique. Et dans un entrepôt logistique, j'ai besoin de gérer des flux de produits, des flux sur des machines, des camions et des hommes. Et en fait, vous allez avoir des logiciels qui vous gèrent tous ces éléments de la chaîne d'approvisionnement qui arrivent, de la chaîne d'approvisionnement qui part, et tout ce qui se passe au sein de votre entrepôt de logistique. Sans ce logiciel, je ne peux pas opérer cet entrepôt. Voilà, c'est très simple. Un troisième exemple, donc ça je peux vous parler moi de mon expérience personnelle chez Opale Capital. On utilise un logiciel qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM, donc un logiciel qui gère la relation client.
C'est le logiciel qui équipe le secteur du private equity.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce que en fait on a de multiples contacts avec des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes. Et que retenir tout dans notre tête, c'est pas possible. Retenir tout sur un calepin, c'est pas organisé. Sur Excel, ça vole en éclats. J'ai besoin de quelque chose qui veut me permettre de gérer mes flux d'appels sortant, entrant, d'avoir dans un endroit toute l'information que je connais sur ce client.
Voilà, très concrètement, le logiciel, c'est littéralement l'illustration de la transformation numérique de notre entreprise. Ça concerne les entreprises de toute taille. On parle de faire tourner la boîte, oui. On parle d'efficacité, de modernisation, d'automatisation aussi. Et puis tout ça, en fait, à moindre coût, parce que quand on passe par un logiciel, on n'a pas besoin de développer toute une infrastructure numérique complexe.
Exactement.
Voilà pourquoi on s'intéresse à ce secteur avec vous. Alors maintenant, on va se remettre dans les chaussons d'investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce secteur? Vous allez nous parler de marge d'abord.
Absolument. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le secteur des logiciels qui sont cotés en bourse, vous avez quelques très beaux noms, quelques pépites, HubSpot en fait partie, je l'ai mentionné. Vous avez quelques sociétés comme ça qui sont en forte croissance sur les revenus et qui sont positives, qui génèrent une marge positive. Vous avez parmi toutes les sociétés cotées et qui font du logiciel, la médiane est plutôt en perte. Et quand vous construisez un index, donc il y a des index qui existent, qui regroupent toutes les sociétés cotées qui font du SaaS, comme cet index il est plutôt en marge négative, en perte, eh bien, en fait, vous êtes très sensible à toutes les fluctuations de marché. Vous êtes sensible au fait que, tout d'un coup, la croissance de revenus baisse un peu. Vous êtes sensible au fait que les taux d'intérêt remontent assez violemment, comme on l'a eu ces derniers temps. Et en fait, vous avez donc un index de sociétés SaaS coté qui est extrêmement volatile. Donc si, ça, c'est la situation quand vous êtes coté et non rentable. Donc finalement, nous, ce qu'on va regarder, c'est il faut être extrêmement sélectif sur sur les sociétés qu'on va, sur lesquelles on va investir. J'ai mentionné les taux de croissance du secteur qui sont fantastiques, mais en fait, cette croissance fantastique fait que cette volatilité, moi, elle ne me convient pas. Et donc c'est pour ça que je vais rechercher les sociétés qui sont à forte marge.
À forte marge. Il y a aussi un aspect qui vous plaît en tant qu'investisseur private equity, c'est le fait qu'il y a beaucoup de potentiel d'opérations de fusion et d'acquisition. C'est un marché mouvant avec des regroupements. Et ça, expliquez-nous pour les investisseurs non professionnels pourquoi ça vous plaît.
Alors, quand on rentre dans une opération de private equity, y a trois choses qu'il faut regarder. Un, c'est est-ce que cette société vaut le coup ? Deux, est-ce qu'il y a du potentiel ? Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose quand elle sera dans le portefeuille de mon fonds ? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire une augmentation de son profil stratégique qui fait que les profits vont être plus élevés et donc sa valorisation va être plus élevée ? Et troisième chose, et en fait c'est ça qui est critique, c'est est-ce que je vais pouvoir la vendre ? Parce que si je ne la vends pas, je ne vais jamais pouvoir matérialiser la plus-value.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity. Et ce secteur, il est magnifique aussi pour ça, c'est que c'est un secteur extrêmement actif en termes de fusion-acquisition. On a des acteurs stratégiques, c'est-à-dire des acteurs du secteur qui sont extrêmement actifs sur l'acquisition de nouvelles sociétés. Quelque part, en fait, ils ont externalisé leur recherche et développement et quand ils font une opération de fusion-acquisition, ben, en fait, ils ont réinternalisé ce département R&D chez eux. Donc c'est une façon pour eux de continuer à être pertinent dans un monde qui innove en permanence.
On parlait de fusion-acquisition, on a traité en début de semaine avec Antoine Larigonnery le capotage du rachat d'Informatica par Salesforce. Alors on est sur des entreprises cotées évidemment. Voilà, on essaie de décortiquer pourquoi le logiciel intéresse en particulier les investisseurs en non-cotés. On comprend que la volatilité qui est très forte quand on parle d'entreprises cotées l'est un peu moins sur des entreprises non-cotées. Maintenant il y a quelques risques aussi qui concernent spécifiquement les investisseurs non cotés et le logiciel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'il faut, compte tenu de l'ampleur de ce secteur et du fait que, le fait que les sociétés cotées ne sont pas rentables en moyenne, c'est une réalité qui reflète quelque chose de ce secteur. On a eu des excès du fait de l'argent gratuit pendant une décennie qui ont fait que la croissance à tout prix est devenue une espèce de logiciel dans le logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sain, en tout cas vu du point de vue de l'investisseur en private equity. Donc il faut être extrêmement sélectif. Et donc il faut aller regarder énormément de choses pour se rassurer. Première chose, c'est est-ce que cette société a des marges positives ? Deuxième chose, est-ce que la technologie qui est utilisée pour faire ce logiciel, est-ce qu'elle est encore à jour ou est-ce qu'elle est déjà dépassée ? Est-ce que vous avez des barrières à l'entrée qui vous permettent d'être relativement serein sur les cycles d'innovation ? Ou est-ce que la nouvelle société qui se développe est capable de venir prendre votre marché ? Donc il y a énormément de choses effectivement qui peuvent mal se passer. Et donc c'est pour ça que, avant d'investir dans une société de logiciels, le secteur est très attractif et ça peut très bien se passer, mais il faut être extrêmement sélectif, faire très attention à ce dans quoi on met les pieds. Et donc il faut ce qu'on appelle les due diligence, qui est donc l'étude approfondie avant d'investir. Celle-là, elle est clé. Cette phase est absolument clé.
On comprend la difficulté de la due diligence parce qu'il y a autant de logiciels que de secteurs, on va dire. Peut-être pas autant que d'entreprises, c'est ça la magie c'est qu'un logiciel peut servir plusieurs entreprises dans un secteur, mais il y a quasiment autant de secteurs que de logiciels. On parle de technologie, par définition, un logiciel et un SaaS, ce sont des technologies qui sont mises à jour tout le temps. Oui. Comment en interne, dans les fonds de private equity, vous arrivez à avoir la compétence technique de justement savoir si la technologie du logiciel que vous surveillez de près est à jour et valable dans les prochaines années ?
Vous avez deux approches. La première approche, c'est de recruter dans l'équipe d'investissement des anciens de boîtes de logiciels et donc en fait des gens qui ont un vernis tech extrêmement, extrêmement approfondi.
Peu importe le secteur, oui. La tech.
Exactement, la tech. Et eux vont pouvoir avoir les bons réflexes. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire, c'est de s'associer avec des experts. Par exemple, moi, je discute avec un fonds d'investissement qui a recruté dans son équipe d'experts l'ancien Chief Technology Officer de Visma. Pourquoi Visma, c'est une société qui opère dans le logiciel. Et en fait, elle a la particularité d'avoir été extrêmement active dans les fusions acquisitions. Elle a acquis plus de 200 sociétés depuis sa création. Et qu'est-ce que le fait d'avoir cet expert à disposition fait? C'est qu'en fait, lui, il a analysé des centaines de sociétés avant d'investir chez elle. Et donc a analysé toute la couche logicielle d'un point de vue tech avant de se dire non, en fait cette technologie elle est fragile. Mm-mm. Ou alors non, au contraire, cette technologie elle est vraiment à la pointe, elle apporte vraiment quelque chose qui ne sera pas apporté par les concurrents, et donc elle a vraiment un avantage compétitif.
Bon, il y aurait mille choses encore à dire. C'est sûr que tout le monde n'est pas un ancien exécutif de Visma, un ancien champion du cloud. En termes d'investisseurs particuliers, pour finir cette séquence, Paul, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on réfléchit à mettre des billes dans une entreprise du secteur logiciel, du logiciel, peut-être dans la grille de lecture qu'on peut avoir? Est-ce qu'il n'y a pas deux, trois choses plus faciles à lire que finalement la technique pure et dure?
Alors moi, j'ai plusieurs points dans ma recette que je vais vous livrer. Quand j'ai investi moi dans un fonds, si ce que je veux c'est un fonds qui investit dans le logiciel, je vais favoriser les fonds qui sont spécialistes du logiciel, c'est-à-dire qui n'investissent pas dans autre chose.
Les pure players logiciels.
Exactement, les pure players, parce que justement ce secteur il est compliqué à lire et on a besoin d'expertise. Donc moi j'investis dans ceux qui ont développé ces expertises et qui ont dans leur équipe en fait toutes les compétences qu'il faut pour analyser correctement cette société.
Quoi d'autre?
Deuxième chose, je veux un fonds qui a démontré sa capacité à choisir des logiciels qui sont ce qu'on appelle en anglais mission critical, c'est-à-dire qui sont critiques pour la survie de l'entreprise qui l'utilise.
Si l'entreprise n'est pas outillée, elle va mourir.
Exactement. Donc je vous ai parlé par exemple de ces logiciels qui gèrent les entrepôts d'approvisionnement. On sait très bien que ces entrepôts, sans le logiciel qui gère l'entrepôt, ne tournent pas. Ça c'est mission critical, et en fait ça c'est ce que j'aime bien moi quand je vais investir dans un fonds de private equity.
On parlait de SaaS,
expertise et une capacité à bien sélectionner les entreprises.
On parlait de logiciels sur abonnement pour quand on s'intéresse particulièrement au SaaS, il y a cette notion d'abonnement qui est importante aussi.
Et qui en fait tout l'attrait d'un point de vue modèle d'affaires. Quand vous avez un abonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire récurrence des revenus. Et qui dit récurrence des revenus, pour le financier que je suis, c'est magnifique. Parce qu'en fait, vous avez une prédictabilité extraordinaire. Et donc, vous savez à quel point vous allez générer des revenus aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, en fait, finalement, vous avez cette prédictabilité qui est faite par la récurrence du revenu. Et si vous êtes capable d'analyser que, justement, le taux de déséquipement est extrêmement faible, alors vous avez là, en fait, de quoi gérer une boîte de façon assez simple.
Voilà, quelques éléments pour que vous aussi, investisseurs particuliers, vous puissiez vous projeter en tant qu'investisseur dans le secteur du logiciel. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blossville, d'avoir été avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. Avec nous depuis le début de l'émission. On a démarré une de nos premières semaines de Tout pour investir avec vous. Je vous remercie d'être toujours parmi nos experts, cher Paul. À bientôt sur un autre sujet. Le Private Equity, c'est le jeudi dans Tout pour investir. Vous avez des questions, des réactions? Vous voulez qu'on zoome sur un secteur? Vous avez une question qui concerne le Private Equity, que vous soyez un investisseur avec des gros tickets ou avec des petits tickets? N'hésitez pas. Direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Je vous lis en message privé. À suivre, on s'occupe de vos impôts. Vous avez des enfants? Non, c'est le moment de ne pas oublier que vous êtes parents quand vous remplissez votre déclaration de revenus. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de vos finances personnelles. La période déclarative a démarré il y a quelques temps maintenant, le 11 avril. Vous êtes peut-être très serein quand il s'agit de faire de votre déclaration de revenus. Vous êtes peut-être, au contraire, en crise d'angoisse structurelle depuis le 11 avril. En tout cas, sachez que si vous êtes parent, il faut rester branché. Parce que nous allons nous intéresser aux cases qu'il ne faut pas oublier. Si votre progéniture peut vous servir à baisser vos impôts, c'est toujours intéressant. Au-delà de tout l'intérêt qu'il y a à avoir des enfants. N'est-ce pas, Marion?
Tout à fait, Lorraine.
Bonjour Marion Chapelle-Massot, vous êtes directrice du cabinet de conseil en gestion privée des Carillon, avec nous pour parler impôts et enfants. Il y a des cases qu'il ne faut pas oublier.
Alors, vous êtes peut-être en train d'accompagner quelques-uns de vos clients dans cette logique de déclaration fiscale. Et comment on peut oublier qu'on a des enfants dans sa déclaration ?
Bah, figurez-vous qu'on le remarque de plus en plus. Certaines personnes oublient tout simplement de mettre à jour la composition de leur foyer familial sur les premières pages de la déclaration de revenus, si vous la faites évidemment via Internet.
Normalement, c'est les pages où on est encore un peu frais.
Normalement, mais donc évidemment, vous devez vérifier. Pour autant que tous vos enfants sont bien inscrits sur cette page-là. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un enfant au cours de l'année, vous avez 60 jours pour l'enregistrer sur votre espace impôt.gouv, ce qui peut vous générer des économies, notamment en termes de prélèvement sur les acomptes de prélèvement à la source, etc. Et donc, effectuer une mise à jour au cours de l'année. Mais il faut bien, évidemment, en mai qui suit l'année de la naissance de votre enfant, vérifier qu'il apparaît bien au sein de votre foyer pour évidemment une question de part.
On ne va pas pouvoir couvrir tous les aspects forcément de ce sujet, mais on va parler des petits-enfants et des grands-enfants. Parce que si vous avez des enfants majeurs, ça vous concerne aussi ?
Alors, concernant les enfants majeurs, les principales erreurs qu'on note, ce sont déjà, on oublie de cocher les cases comme quoi ils sont scolarisés au collège, au lycée ou en études supérieures. Il faut quand même savoir que c'est 61 euros de réduction d'impôt pour le collège, 153 au lycée et 183 pour l'enseignement supérieur.
C'est déjà ça.
Absolument. C'est pas des grandes réductions d'impôt, mais il n'empêche que si vous oubliez de cocher la case, elles ne sont pas appliquées. Alors ensuite, en termes d'enfants majeurs, un problème aussi que l'on peut constater, c'est qu'en fait, dans la première page, on vous demande si votre enfant majeur habite chez vous. Si toutefois votre enfant majeur est étudiant et que vous payez pour lui un appartement dans la ville où il étudie, vous devez absolument noter son adresse parce que il va y avoir un impact sur la taxe d'habitation. Si vous déclarez votre enfant majeur étudiant chez vous avec la même adresse, ce qui est plus simple à la base parce que ça vous évite d'écrire l'adresse du local, eh bien vous risquez de payer la taxe d'habitation de logement étudiant. Donc pour cela, cette année, en termes de nouveautés, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en matière de déclaration, mais cet élément-là apparaît un peu plus visible sur l'accès.
Un peu plus clair. On a pas mal de questions d'auditeurs qui ont des enfants étudiants, que ce soit en stage ou en alternance. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, nous dire ce qu'il faut ne pas oublier pour ces enfants alternants qui commencent à gagner leur vie ou en stage qui ne la gagnent pas tout à fait ?
Alors, c'est un sujet intéressant parce que quand il faut bien faire la différence entre mon enfant qui, par exemple, est majeur ou pas d'ailleurs, mais qui est en droit de travailler et qui a eu un job d'été l'an passé, par exemple, l'été, ou pendant les vacances scolaires, etc. Et celui qui suit ses études en alternance, qui a donc un contrat et qui est payé pour cela. Donc ça, c'est vraiment deux caps différents. Quand on a un job d'été, moyennant une rémunération, le plafond de rémunération pour lequel on est exonéré, est de 5204 euros en 2023. Donc il ne faut pas que votre enfant ait gagné plus de 5204 euros, auquel cas, il vous faut déclarer dans la case que le surplus, d'accord, l'exonération va pas s'effectuer d'elle-même, en fait. Il faut déclarer le surplus.
5204 euros, on ne peut pas mettre des chiffres ronds.
Oui, il y a forcément, c'est sûr. C'est une actualisation, je pense, de barème qui fait que avec une actualisation de 4,8% par exemple pour les tranches de barème à l'impôt sur le revenu cette année, on est sur des chiffres un peu aléatoires.
Marion.
Alors simplement, je rappelle que pour les revenus apprentis d'apprentissage, donc contrat d'apprentissage, il faut évidemment que votre enfant ait moins de 25 ans pour que au 1er janvier 2023 pour que ce soit applicable. Et ensuite, là, le plafond est un peu plus élevé, puisqu'il est à 20 815 euros pour être exonéré. Attention, un point très important, si votre enfant est en contrat de professionnalisation et ils ne sont pas visés par ces mesures d'exonération.
Vous avez entendu, contrat de professionnalisation, ça ne s'applique pas. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous partagent leurs problèmes patrimoniaux et fiscaux liés à un divorce. Si on a divorcé cette année, qu'est-ce qu'il se passe concernant la déclaration de mes enfants ?
Alors, c'est le fameux mystère de la case T.
T,
cette case, attention.
Francène.
Cette T. Cette case T n'est jamais remplie par défaut. Jamais. Même si vous l'avez remplie l'année dernière, il vous faut la cocher cette année. Et cette case T, elle peut quand même vous octroyer, ne l'oublions pas, une demi-part supplémentaire en plus de la demi-part de votre enfant.
D'accord.
Et donc, vous avez divorcé dans l'année.
Alors, dans l'année, ça veut dire là, on est au mois d'avril.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai divorcé en février, ça s'applique pour moi ?
Ah non. Parce que là, on est en 2024. Il faut, on regarde la situation au 31/12/2023. Et ça, l'administration est bien claire sur l'application, le mode opératoire de cette case T. Il faut que vous, et que vous viviez seul. Attention, Lorraine, vivre seul ne veut pas dire en concubinage. Donc, si par exemple vous êtes en concubinage, mais vous vous dites ça se verra pas, si votre concubin déclare la même adresse. D'accord, sur sa propre déclaration, puisque les concubins n'effectuent pas de déclaration ensemble, eh bien, l'administration, attention, va vous revenir vers vous et vous indiquer que vous n'avez pas droit à cette demi-part supplémentaire. Et si vous êtes divorcé, chaque parent a droit à cocher cette case T. Souvent, l'année du divorce, on est seul des deux côtés. Et donc, chaque parent peut bénéficier de cette demi-part, sachant que dans ce cas précis, les enfants, par exemple, la demi-part des enfants ne sera qu'un quart de part, puisque elle sera réputée en garde alternée.
Voilà, cette casse-té, ces mystères démystifiés avec vous, Marion Chapelle-Masseau. Je précise que si vous avez besoin d'aide, il y a quand même pas mal de choses qui marchent pas mal. D'abord, télécharger l'application, un peu en .gouv, qui fonctionne pas mal, il faut le dire.
Absolument.
C'est pas mal fait. Et puis, vous pouvez aussi appeler des gens, comme Marion. Ou même merci, votre Lorraine. Comptable ou un avocat fiscaliste. Ou continuer à écouter Tout pour investir parce qu'on s'occupe de vos impôts. Merci Marion Chapelle-Masseau. Vous êtes directrice du cabinet Descarion. Avec nous régulièrement sur notre antenne pour parler des sujets qui fâchent. Il a sans doute des sujets plus réjouissants pour nous que les impôts. Mais il faut bien en parler, mon cher Sofiane. Excusez-nous. Hein.
Mais non, c'était passionnant.
Sofiane Aklou-Farif, on prend les manettes avec vous, avec Erwan Maurice. Quel est le programme de l'émission du jour, mon
frère ? Eh bien, dans un instant, on vous dévoilera les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2024 de la DARES. Ce sera dans le journal de Stéphanie Collot. Et on parlera du podium des métiers les plus recherchés pour les employeurs. C'est toujours du côté de l'hôtellerie-restauration, hein, sans surprise. Au programme également, le préavis de grève levé par les contrôleurs aériens. Ont-ils raison d'agiter cette menace ? On en parlera. Et puis on parlera de discrimination au travail, sur l'orientation sexuelle, étude publiée aujourd'hui sur l'intégration des LGBT+. Et là, de ce côté-là, il y a de bonnes nouvelles. Vous serez contente, Lorraine.
Avec vous, c'est à suivre dans moins de 3 minutes. On est en retard, mais j'en profite pour vous dire que même si Amorito Connect n'est pas là, il y a BFM Crypto, le club, tout à l'heure à 15h pour continuer à suivre les actualités des cryptos et du Web3. C'est à 15h avec Guillaume Sommerer qui sera aux manettes. Le Bitcoin se traite autour de 63 577 $. L'intégralité de Tout pour investir est à trouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur notre site et notre application. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.